Bonsoir, comment allez-vous ? Aujourd'hui, il y en a un qui va faire une drôle de tête quand il va nous voir, nous, humains, fermer nos poules ou sortir nos poubelles une heure plus tard. Car il nous observe, par curiosité autant que par intérêt. C'est le renard. Je vous propose de faire connaissance avec le plus félin des canidés. Il pèse 5-6 kilos, mesure dans les 70 cm, plus 40 pour la queue qui sont à tout beauté. Le vétérinaire François Moutou et le photographe Laurent Gélin lui consacrent un livre édité chez Salamandre. Ce livre est mon antidépresseur. Quand j'ai besoin de douceur, je vais voir la fratrie de Renardeau qui ne forme qu'une seule et unique boule de fourrure et lit avec délice le truc de François Moutou pour arriver à les compter. Quand Paris est trop gris, je vais dans les grandes étendues neigeuses si bien photographiées. J'apprends qu'un renard détecte un campagnol sous 20 cm de poudreuse. Quand j'ai envie de rire, je le regarde piquer dans la neige, tête la première, fait ses pattes en l'air. Ça s'appelle le mulotage. Quand j'en ai ras-le-bol de porter les courses, je pense aux parents renards qui régurgitent la nourriture pour leurs enfants. Quand je manque de courage, je le vois face au lynx ou s'aventurant en ville. Quand je vois l'hiver, je pense que c'est la saison des amours chez les renards et que madame peut avoir plusieurs maris et des enfants de pères différents dans une même portée parfaitement. Quand je rêve de lumière, je pense au tapetum lucidum, la couche réfléchissante située derrière sa rétine qui fait briller les yeux du renard la nuit.
Bonjour, je m'appelle Cassandra, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi certains animaux vivent-ils la nuit. Merci, au revoir.
Bonsoir Cassandra. Dominique Lestel, pourquoi certains animaux vivent la nuit, se demande Cassandra.
Vous savez, l'évolution naturelle fait que les animaux vont développer des caractéristiques en fonction de ce qu'on va appeler l'écologie de leur environnement, c'est-à-dire en particulier des autres animaux. Que vivre la nuit lorsque beaucoup d'animaux vivent le jour, ça peut être une bonne option pour pouvoir avoir accès à des ressources auxquels les autres ne vont pas avoir accès, ou pour éviter les animaux qui vivent le jour. Si vous êtes un animal qui craignait les prédateurs, qui aime votre viande, et que les dix prédateurs vont plutôt vivre le jour, vous allez développer des aptitudes à vivre la nuit et être sélectionné pour ça.
Je vais sortir quand ils seront couchés.
Voilà. Le problème, c'est que vous allez sortir quand ils seront couchés, mais il va y avoir d'autres espèces qui vont considérer que vous attraper, c'est très intéressant. Donc, ils vont également se spécialiser dans la nuit pour pouvoir vous attraper, vous, et pas ceux qui sont dans la journée, etc. Donc, on va avoir des écosystèmes qui vont se développer comme ça. Et pourquoi il y a des animaux qui sortent la nuit, qui vivent la nuit ? Eh bien, parce qu'à un moment, l'espèce a considéré que c'était une option qui était très intéressante, plutôt que de vivre le jour.
Dominique Lestel est philosophe et éthologue. Il est maître de conférences à l'École normale supérieure. Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Clive Lamming est spécialiste des trains, il est historien et au petit bateau, nous l'adorons.
Bonjour, je m'appelle Pienza et j'aimerais savoir comment les Indiens voyaient le chemin de fer pendant la conquête de l'Ouest. Merci beaucoup. Au revoir.
Ah, ce fameux chemin de fer des westerns. Merci Pienza. Clive Lamming, vous êtes historien du chemin de fer en Europe ou dans le monde entier ?
Dans le monde entier.
Alors, c'est pour vous la question de Pienza.
La question, bien sûr, des Indiens. Je répondrai directement à la question de Pienza. Les Indiens le voyaient très mal. Parce qu'il y avait eu un contrat entre les premières compagnies et les grandes tribus, comme quoi on traversait leur terrain de chasse, mais on ne touchait pas à ces terrains, on leur laissait l'accès libre, etc. Et les Indiens se sont aperçus très rapidement que la construction de ces chemins de fer éloignait les animaux, bouleversait tout un système, et ils ont protesté, ils ont essayé, mais assez peu finalement. Il y a eu très peu d'attaques et de méfaits commis par les Indiens. Le cinéma américain s'est chargé, lui, de la légende, mais qui est assez fausse. Les Indiens ont bien moins attaqué les trains que les bandits, comme Jesse James ou autres, les Dalton du coin, c'est pas qui attaquaient les trains. Mais les Indiens, on peut attaquer les trains. D'ailleurs, je suis allé dans l'Ouest américain et à Kayenta, qui est la capitale de Navarro, j'ai vu un portrait de John Wayne dans un bistrot et je m'étonnais, lui qui incarne le tueur d'Indiens. Et les Indiens m'ont expliqué, mais il nous a protégés, il nous a rendu notre dignité. Et effectivement, John Wayne a beaucoup montré que les Indiens n'attaquaient pas les trains. Mais ils ont été déçus, se sont sentis, je dirais, frustrés, volés, parce que finalement, leur terrain de chasse, ben, il n'y avait plus rien à chasser. Le chemin de fer, la civilisation détruisait leur milieu. Donc, ils n'aimaient pas les chemins de fer. Ah oui, certains, parfois, prenaient les lignes téléphoniques en cuivre pour se faire des bijoux.
Ah, c'est une bonne idée.
C'était une très bonne idée, pas très bonne au point de vue PTT, mais très bonne pour les Indiens. Ils se faisaient des très jolis colliers en cuivre, ils coupaient les fils électriques. Voilà à peu près le seul méfait connu. Mais ils n'ont jamais attaqué de train, pratiquement jamais. C'est le cinéma qui s'en est chargé.
Il faut dire quelle richesse apportaient ces trains, richesse en tout genre.
Le chemin de fer apportait avec lui la civilisation, les villes, la modernité, mais pour les Indiens, il n'apportait rien. Ils avaient leur civilisation et leur système. Alors ils ont dû, bon gré, mal gré, je dirais, prendre le train. Ouais. C'est-à-dire le prendre aussi ceux qui même prendront le train. Et les Indiens étaient obligés de se plier à la vie moderne. Mais le chemin de fer, il appelait, vous savez, ce cheval de fer qui traversait les plaines. Ils voyaient ça vraiment d'un très mauvais œil. Ils n'avaient peut-être pas tort. Mais est-ce que finalement, il faut être du côté des Indiens, de la civilisation? Vous savez, avant le chemin de fer de l'Ouest américain, il fallait 6 mois de charrette. On mourait en route à cause des maladies. On laissait des tombes tout le long, les pionniers. Avec le chemin de fer, il fallait plus qu'une semaine. Donc c'est énorme, mais c'est un progrès qui, comme tout progrès, est dévastateur.
Richesse pour les uns, misère pour les autres. Clive Lamming a écrit beaucoup d'ouvrages dont vous trouverez les références sur le site des Petits Bateaux.
Y mira Batman si con nosotros te entromete. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo apuesto hasta el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me pongan los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. Boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Busca a ti, te canto pa' que tú me cantes.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón solo con mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Póngalo billete.
Por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí, yo por ti, tú por mí.
Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tienes lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decía. Choqué con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que
cante.
Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí.
Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí.
Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí. Por ti, tú por mí.
La Rosalía, mira, ¿quién lo diría? Que hasta la esquina hasta esa son sonaría. ¿Quién lo diría? Que hasta la esquina hasta esa son sonaría. Por ti, ¿Quién lo diría? Que hasta en la esquina esta sazón sonaría. ¿Quién lo diría?
Yopouti Tupumi, c'était Rosalia avec l'artiste portoricain Ozuna, extrait de la playlist de France Inter.
Les petits bateaux sur France Inter.
Agathe Sanjean est conservatrice archiviste de la Comédie française.
Bonjour, je m'appelle Mathilde, j'ai 11 ans, et je voudrais connaître la pièce de théâtre que la Comédie française a le plus souvent interprétée depuis qu'elle existe. Au revoir. Merci.
Bonsoir Mathilde, c'est nous qui te remercions. Mathilde, Agathe Sanjean, qui est à côté de moi, a écrit Comédie française, une histoire du théâtre, a co-écrit, puisque Martial Poisson l'a écrit avec vous. Et ce beau livre rouge et or est édité au Seuil. Donc, je pense que vous savez parfaitement ce que Mathilde demande.
Oui, merci Mathilde pour cette question. Alors, la pièce la plus souvent jouée, c'est très facile de répondre à cette question.
C'est l'Avare.
Eh ben non, c'est le Tartuffe de Molière.
Oh, j'étais pas si loin.
Voilà, le Tartuffe a été joué très exactement à ce jour 3193 fois à la Comédie française. Il faut savoir qu'à la Comédie française, on tient les comptes. Et notamment ce qu'on appelle le quantième, combien de fois une pièce a été jouée. Et pour te répondre un peu plus, de manière un peu plus large, Molière est bien sûr l'auteur qui est le plus souvent joué. Et imagine-toi, il a été joué plus de 33 000 fois depuis 1680, depuis la fondation de la Comédie française. Donc il est très très loin devant tous les autres auteurs. Les autres auteurs les plus souvent joués étant Racine et Corneille. Et parmi les pièces les plus souvent jouées, c'est évidemment pour la plupart des pièces de Molière. La première pièce qui arrive dans le top 10, on va dire, c'est Le Cid de Corneille, avec 1732 représentations.
On dit la maison de Molière.
Exactement, on dit la maison de Molière, justement parce que cette troupe interprète le répertoire de Molière depuis le XVIIe siècle. Alors, il faut dire qu'on avait pris un peu d'avance sur les autres théâtres, puisque on avait le privilège, en fait, du répertoire français depuis 1680 jusque tard, finalement, dans le XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à Paris, on était censé être les seuls à pouvoir jouer le répertoire français et le répertoire de Molière en particulier. Et puis, il y a eu autre chose aussi qui a joué pour ce nombre faramineux de représentations. C'est qu'autrefois, on jouait deux, voire trois pièces par soirée.
Avec les mêmes comédiens ?
Avec les mêmes comédiens. Et du coup, très souvent, il y avait une pièce de Molière qui était l'auteur phare du répertoire de la Comédie française. Au XIXe siècle, c'est la période la plus extraordinaire de ce point de vue-là. Dans les années 1850, j'avais fait le calcul, parce qu'on a un registre à la Bibliothèque Musée de la Comédie française qui donne la durée des pièces. Et j'avais fait le calcul que la plupart des soirées duraient 5 heures, en fait, avec plusieurs entractes. On allait au théâtre pour une très longue période, pour passer une demi-journée. C'était l'usage du théâtre.
5 heures au théâtre ? Mais on y mangeait ?
On y mangeait, bien sûr.
Oui. Et on y buvait ?
On y buvait. Et on rencontrait ses amis, on parlait à l'entracte, enfin voilà, c'était vraiment une sortie complète.
En ce moment, c'est un Phèdre que l'on joue à la Comédie française, à la puce à l'oreille, jusqu'au 23 février. Allez, puisque je suis dans les renseignements, voici le numéro de téléphone des petits bateaux, 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Julien et je voudrais savoir si les plantes et les arbres ont des ADN.
Catherine Laine, vous êtes enseignante-chercheure à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et vous êtes l'auteur de ce livre absolument passionnant édité chez Belin, Dans la peau d'une plante, l'ADN des plantes.
Oui, alors l'ADN, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est la molécule de l'information génétique et cet ADN, c'est une sorte d'énorme molécule, on appelle ça une macromolécule, qui est constituée de petits éléments accrochés les uns derrière les autres comme un collier de perles. Ces petits éléments, ils sont de quatre types. On appelle ça des nucléotides. Donc, cet ADN, en fait, il y a un alphabet à quatre lettres.
Oui.
Et le long de cette molécule d'ADN, les quatre lettres s'agencent de manière variée selon l'endroit où on regarde l'ADN.
Oh ben ça peut faire beaucoup, parce que sur un digicode où on a le droit qu'à quatre lettres, si on n'a pas le code, on ne trouve pas.
Absolument. Donc, justement, comme vous parlez de code, cette molécule, elle est donc porteuse d'un code. Et elle va être décodée par la cellule, elle est lue par la cellule pour fabriquer des protéines, en fait. Alors la question c'est, est-ce que je trouve de l'ADN dans les plantes et dans les arbres ? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'ADN pour l'homme, éventuellement pour les animaux. Est-ce que j'en ai dans les plantes ? Alors oui, il y en a dans tous les êtres vivants, on trouve de l'ADN. Et cet ADN, je dirais donc, il est universel. Et ce qui est extraordinaire, c'est que l'alphabet des quatre lettres est universel. Il est le même pour tous les êtres vivants, de la plus petite bactérie au plus grand arbre, en passant par nous les hommes, bien sûr. Donc on a une sorte de molécule universelle, porteuse de l'information génétique. Et comment explique-t-on qu'on est tous porteurs de cet ADN ? Eh bien parce que nous venons tous du même endroit, tous les êtres vivants ont la même origine, l'origine de la vie, hein, il y a 3,7 milliards d'années, où cet ADN s'est constitué dans l'océan, à l'intérieur d'une cellule. On a même nommé cet ancêtre commun à tous les êtres vivants, inconnu évidemment, on ne sait pas à quoi il ressemblait, on l'a appelé LUCA. LUCA, en anglais, c'est un acronyme pour désigner le dernier ancêtre connu, cellulaire.
Donc dans toutes les langues, ça s'appelle LUCA.
Voilà, LUCA, Last Unicellular Ancestor, ça veut dire le dernier ancêtre cellulaire, unicellulaire connu. Et ce qui est joli aussi à souligner, c'est que de la bactérie à l'arbre, eh bien, ça veut dire qu'on est tous parents et qu'on peut effectivement dessiner ce qu'on appelle un arbre de parenté, l'arbre du vivant, où nous sommes toutes les espèces vivantes reliées par des ressemblances. Ces ressemblances se lisent dans notre ADN.
Encore vers je ne sais quel remords, il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulée, par-ci par la lunée, pas les idées bien installées, des échelles. Ondulée, par-ci par la lunée, pas les idées bien installées, des échelles. Never feel the same. Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Assis là, j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore. Aïe, à la baisse, mon décor. Assis là, je fais des ratures. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par la lune. Pas les idées bien installées, des échelles. Ondulée, par-ci par la lunette. Pas les idées bien installées, des échelles. I never feel the same. Ondulée, par-ci par la lunette. Pas les idées bien installées, des échelles.
Se prononce Bogart. C'était Mathieu Bogart, ondulé en 1996.
Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 7 ans. Comment les grottiers font quand ils ont envie d'aller aux toilettes? Au revoir, merci.
Ça, c'est effectivement une question intéressante, Juliette. Il faudra d'ailleurs tenir compte dans votre réponse que Juliette est une fille. J'imagine, Éric Etival, vous êtes grutier, vous êtes formateur au centre de formation Émile Picot à Malemort en Provence, et puis vous avez fondé un site qui s'appelle grutier.net. Et oui, quand on a envie de faire pipi, j'ai envie de poser une question avant que vous ne répondiez à celle-là. Combien de temps on met pour monter? Combien de temps met le grutier entre le sol et son poste de travail?
Alors, ça dépend de la hauteur, bien entendu, hein. Donc, disons que pour une grue d'une hauteur de 30 à 35 mètres, il faut compter à peu près entre 5 et 10 minutes, suivant la personne, s'il est sportif ou non, hein. Et il faut savoir que depuis quelque temps, il y a une recommandation qui est sortie de la CARSAT. La Sécurité sociale. Donc, qui dit que à partir du moment où une grue est au-delà de 30 mètres de hauteur, il lui faut un ascenseur.
Ah bon, pardon. Avant, personne n'avait d'ascenseur, non. Même si les grues étaient hautes.
Pour les grues de grande hauteur, on dira jusqu'à 100 mètres, oui, il fallait un ascenseur. Et depuis un an ou deux, maintenant, les grues qui ont plus de 30 mètres d'ascension doivent posséder un ascenseur. Pour répondre à la question de Juliette, l'ascenseur, il est là justement pour aider le grutier, quand il a besoin d'aller aux toilettes, de descendre plus rapidement de sa grue.
Cela dit, l'ascenseur, c'est quand même pas immédiat. Donc, un garçon, j'imagine, qui fait pipi dans une bouteille.
Exactement, oui, voilà. Tout à fait.
Et une fille, c'est un peu plus compliqué.
Alors, c'est plus compliqué. Alors, je sais qu'il y a des entreprises qui donnent aux grutiers ou aux grutières un genre de kit dans lequel se trouve une espèce de poche dans laquelle on va uriner. Et cette urine va se gélifier, voilà, avec un produit qui se trouve à l'intérieur. Et dans ce kit, on peut avoir des lingettes pour se nettoyer les mains. Voilà, il y a tout un tas de petits accessoires comme ça.
Et un grutier ou une grutière, il peut rester combien de temps là? Ou est-ce qu'il y déjeune, par exemple?
Oui, il y a certaines personnes qui restent dans leur cabine pour prendre leur petit déjeuner. Donc, je peux dire qu'une personne, un grutier ou une grutière qui ne descend pas, peut faire jusqu'à 8, 10, 12 heures dans une journée, sans descendre.
Et la cabine en haut de la grue, elle est grande comment?
Oh, ça fait à peu près 2 mètres carrés. C'est tout petit, hein. Donc, il y a un siège, un peu comme le siège sur lequel je suis assis. Et puis, il y a deux commandes, voilà. Et c'est tout vitré, on a une belle vue.
Et donc, vous vous sentez en plein ciel ou vous vous sentez à l'étroit?
Les deux. C'est un peu à l'étroit parce que, bon, on est dans une petite cabine de 2 mètres carrés. Mais le bon côté du métier, c'est qu'on a toujours une belle vue. Ça, c'est vrai que ça, c'est le bon côté du métier.
C'est un travail de solitaire?
Ah oui, il ne faut pas avoir peur de la solitude. Il faut être très patient.
Et vous échangez comment avec ceux qui sont en bas?
Certains chantiers utilisent un talkie-walkie pour communiquer avec le grutier et aussi faire en sorte que le grutier communique avec le sol. Sinon, quand on n'est pas équipé de talkie-walkie, tout se fera par geste. Donc, il y a des gestes spécifiques pour guider le grutier. Un langage codé avec les bras. Parce que bon, c'est très bruyant un chantier, donc on ne peut pas crier pour donner des ordres au grutier, sinon il n'entendrait rien. Donc c'est simplement des gestes qui sont faits, qui sont mis en place depuis très longtemps. Donc les personnes qui guident le grutier, on appelle ça un signaleur ou un chef de manœuvre. Qui guide le grutier, notamment quand c'est des manœuvres qui sont faites en aveugle. C'est-à-dire que lorsque le grutier ne voit pas l'endroit où il doit déposer sa charge.
Vous avez dit, Éric Etival, il faut être patient. Oui. On passe beaucoup de temps à attendre parce que vous dépendez du rythme des autres.
Oui, l'utilisation d'une grue, je compare souvent à comme si c'était dans un restaurant. On attend le client. Donc il faut être patient. Bon, mais voilà. Et puis tout d'un coup, il y a le béton qui arrive, il y a des camions à décharger. Donc il faut quand même avoir un certain rendement.
Vous avez la radio là-haut?
Alors oui, pour des fois tuer le temps, on peut écouter la radio. France Inter, par exemple.
Voilà, maintenant quand nous verrons une grue, eh bien nous penserons à celui qui est tout là-haut et qui fait marcher la machine. Vous pouvez retrouver ces petits bateaux sur franceinter.fr. Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Jean-Baptiste Audibert, Serge Viguier, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chissou pour la Tulle, mon petit loup.